qu'est-ce que t'as? Oh! Qu'est-ce que tu veux?
Tout compte fait.
Qu'est-ce que tu dis?
Portrait grandeur nature.
Qu'est-ce que tu penses?
Paul Ajac sur France Inter.
Que ce soit un essai ou un roman, j'essaye de faire comprendre une expérience intérieure. Évidemment, c'est pas la même chose quand je l'écris en essai ou quand je l'écris en roman. Alors, dans l'essai, j'étais plus à l'aise parce que le français est quand même une langue seconde pour moi. Mais j'ai eu le sentiment qu'en étant maman, en transmettant la langue à un bébé, et aussi par l'expérience de la psychanalyse où on parle de son enfance, mon français est devenu plus sensuel, peut-être plus souple. Et c'est après mon analyse et après la naissance de David que j'ai commencé à écrire des romans. C'est donc une manière peut-être plus proche des affects, des sentiments, de l'infantile.
C'est une belle dame, brillante, charmeuse, avec ce petit accent venu d'ailleurs, et sa curiosité s'exerce avec talent dans les écrits théoriques et la fiction. Parcours impeccable, on se dit la réussite à tous les étages. Bon, mais moi j'ai l'impression, fausse peut-être, je romance, c'est possible, qu'il y a derrière tant de réussite quelque chose de fragile, de vulnérable, de pas définitivement acquis du côté de la confiance en soi. D'où cela vient-il? Je ne sais pas. Les blessures de l'exil, du déracinement, de la perte d'identité, ce sentiment d'étrangeté du déraciné qui navigue comme en transit perpétuel entre sa terre natale et la patrie choisie, ou alors, plus récemment, la naissance d'un fils, David, affligé d'un handicap psychique pour lequel Julia Kristeva va mener un combat politique. Elle est née en 1941 en Bulgarie communiste et elle a profité d'une accalmie dans la guerre froide pour venir en France, juste le temps de soutenir une thèse. Elle débarque dans l'intense bouillonnement intellectuel qui annonce mai 68. Elle découvre la revue Telle Quelle, fondée par Philippe Solers, son futur mari, dont elle partage aussitôt la rage théorique et militante pour une révolution du langage poétique. Et puis, c'est la voie royale que l'on sait, la reconnaissance internationale pour son œuvre composite. Une bonne vingtaine d'ouvrages, des essais, des biographies et des polars historico-métaphysico-éco, l'Umberto Eco du nom de la rose, ainsi que des ouvrages remarquables consacrés à trois femmes, Hannah Arendt, Mélanie Klein, Colette et Sainte Thérèse d'Avila plus tard, autant de femmes dont Julia Kristeva éclaire et impose le génie féminin dans sa singulière universalité, tout compte fait. Alors, je vais commencer un petit peu comme vous, Julia Kristeva, dans ce très beau livre, ce récit, roman inclassable que vous consacrez à Thérèse d'Avila. Et vous lui dites ceci, puisque c'est votre humanité qui m'intéresse, je commencerai par m'intéresser à vos origines, votre famille, vos amis et vos amours. Julia Kristeva, où êtes-vous née?
Moi, je suis née en Bulgarie, qui est un pays pas très connu en France, j'ai l'impression, même si maintenant la Bulgarie fait partie de l'Union européenne. Puis je suis arrivée en France seulement la veille de Noël 65, parce que le général de Gaulle, qui était un visionnaire, qui n'aimait pas beaucoup l'Europe, mais il visionnait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, il donnait des bourses aux jeunes Bulgares qui parlaient le français.
Est-ce que, Julia Kristeva, vous êtes d'une famille de lettrés, de gens ouverts, et en particulier à la langue française que vous parlez si bien?
Alors, mon père avait fait des études de médecine, mais il n'a pas pu exercer. Maman avait fait des études de biologie. Je vais vous raconter une anecdote.
Allez-y.
Elle dessinait très bien. C'était un peintre jamais extraverti. Mais grâce à elle, j'ai gagné un concours de la radio. On demandait aux enfants de dire qu'est-ce qui est le plus rapide au monde. Et c'était le moment des Spoutniks, etc. Et moi, je dis les Spoutniks. Ma sœur, qui était plus jeune, dit les avions. Bon. Maman nous écoute, il dit non, c'est la pensée. Ah, on était épatées toutes les deux. Mais la question consistait à répondre d'abord, mais aussi à faire un dessin. Et j'étais déjà un peu insolente. J'ai dit, maman, tu as peut-être raison, mais comment tu vas dessiner la pensée? Et elle a fait le dessin qui représentait un bonhomme de neige sous le soleil, qui perd sa tête et tombe. Donc il perd sa tête, il est décapité en quelque sorte, et en même temps sa pensée est vivante. Et pour montrer que la pensée reste malgré la mort, il y a un Spoutnik qui flotte dans le ciel. Et c'est elle qui l'a dessiné, c'est elle qui a donné la réponse, c'est elle qui a dessiné la chose. Et elle me dit, mais tu peux envoyer ça. Et moi je l'ai envoyé, mais en disant comme ça. Et j'ai eu le premier prix. Mais c'est moi qui l'ai eu. Donc, c'était une sorte de femme complètement dédiée à ses enfants, si vous voulez. Elle s'est consacrée à ses enfants, mais c'était des gens qui s'intéressaient beaucoup à la littérature, notamment mon père. Maman était mathématicienne et biologiste, ce qui fait que j'ai eu une double formation, à la fois littéraire et scientifique. Et j'ai voulu être astrophysicienne. Mais dans la mesure où mes parents n'étaient pas communistes, il m'était impossible de partir pour Dubno, qui était l'endroit en Sibérie où les élites et où on se formait à des choses un peu mystérieuses, un peu secrètes. Mais mes parents m'avaient inscrite auparavant à la maternelle française qui était gérée par les dominicaines, je crois, et j'avais appris le français très tôt.
Ne pas parler sa langue maternelle, habiter des sonorités, des logiques coupées de la mémoire nocturne du corps, du sommeil aigre-doux de l'enfance. Porter en soi comme un caveau secret ou comme un enfant handicapé, chéri et inutile, ce langage d'autrefois qui se fane sans jamais vous quitter. Vous vous perfectionnez dans un autre instrument, comme on s'exprime avec l'algèbre ou le violon. Vous pouvez devenir virtuose avec ce nouvel artifice qui vous procure d'ailleurs un nouveau corps, tout aussi artificiel, sublimé. Certains disent sublime. Vous avez le sentiment que la nouvelle langue est votre résurrection. Nouvelle peau, nouveau sexe. Mais l'illusion se déchire lorsque vous entendez à l'occasion d'un enregistrement, par exemple, et que la mélodie de votre voix vous revient bizarre, de nulle part, plus proche du bredouillis d'antan que du code d'aujourd'hui. Vos maladresses ont du charme, dit-on, elles sont même érotiques. Surenchérissent les séducteurs. Personne ne relève vos fautes pour ne pas vous blesser, et puis on n'en finirait plus, et à la fin, on s'en fout. On ne vous signifie pas moins que c'est agaçant quand même. Parfois, une levée de sourcils ou un pardon en volute vous font comprendre que vous n'en serez jamais, que ce n'est pas la peine, que là, au moins, on n'est pas dupe. Dupe, vous ne l'êtes pas non plus. Tout au plus, êtes-vous croyant, prêt à tous les apprentissages, à tous les âges pour atteindre, dans cette parole des autres, imaginée comme parfaitement assimilée un jour, Dieu sait quel idéal, par-delà l'aveu implicite d'une déception due à cette origine qui n'a pas tenu sa promesse. Il y a une chose qui m'étonne beaucoup dans votre parcours, qui est absolument remarquable, Julia Kristeva. Vous êtes une petite Bulgare qui débarque à Paris et très vite, vous allez devenir une grande intellectuelle qui va représenter les Lumières françaises. Et pourtant, vous avez connu donc dans votre jeunesse toutes sortes d'exactions du régime communiste. Mais très vite, arrivé à Paris, vous allez rejoindre un groupe d'intellectuels très excités par le marxisme et le maoïsme. Et vous allez vous lancer là-dedans. À tête perdue, quoi. Sinon le corps.
Mais écoutez, je raconte un peu ça dans mon premier roman qui s'appelle Samouraï. Et l'héroïne principale de ce livre qui s'appelle Olga me représente assez bien. ce groupe-là n'était pas vraiment des marxistes et des maoïstes tels qu'on les dépeint aujourd'hui. Dans mon esprit et tel que je les avais perçus, c'était des jeunes bourgeois qui étaient anarchistes et qui se révoltaient contre une société française un peu frigorifiée, un peu pudique et plus que cela conservatrice, qui sortait de la guerre d'Algérie, qui était blessée elle aussi et qui n'avait pas de perspective. Et pour eux, il fallait casser tout ça. Et c'était une sorte de fronde que de s'intéresser à l'Est.
Oui,
et
il y avait mais alors pas c'est une fronde là. Avec le livre rouge de Mao.
Alors pour ceux que j'ai... Parce qu'il y avait maoïstes et maoïstes. Alors ceux que j'ai rencontrés autour de Philippe Solaire, c'est la revue telle qu'elle, c'était des gens qui s'intéressaient à la culture chinoise. D'ailleurs, on avait pris des leçons de chinois. Moi, j'ai fait même une licence que je n'ai pas finalisée, mais j'ai passé un certain nombre d'examens. Et l'idée était de savoir s'il y a un socialisme chinois qui serait différent du socialisme communiste russe. Est-ce que le background national, avec le taoïsme, le confucianisme, qui ne sont pas la religion chrétienne, entre autres, ouvrait vers autre chose ? Avec cette écriture qui n'est pas la langue indo-européenne, avec ce rapport à la femme dans le taoïsme, etc. Est-ce que ça donnait quelque chose d'autre ?
« Ah bah, l'État policier, 10 ans, ça suffit !» Foule à d'enfer Rouchereau. Drapeau rouge et noir, on va vers l'étoile. Martin et Carole et plein d'étudiants au coude à coude. À quelques mètres devant, on aperçoit la queue écureuil d'Olga. Saint-Œil ne doit pas être loin. La police les laissera-t-elle passer ? Ils franchissent sans peine le pont Alexandre III. Où sommes-nous ? Où allons-nous ? Qu'importe. Tous électriques, survoltés. Certains connaissent l'international, les autres la prennent en bégayant, mine de rien, l'air initié. Olga se demande s'ils savent vraiment ce qu'ils font. L'international, précisément, elle en vient. Yvan s'étonnait hier soir de voir tous ces jeunes innocents rabâcher la langue de bois des apparatchiks de là-bas, des heures et des nuits durant, dans les amphis surchauffés de Nanterre et de la Sorbonne. C'est en effet troublant, la foi de ces ingénus qui courent en toute candeur vers un monde d'oppression. Pas tout à fait pareil peut-être, plus gai, plus anarchiste. Un carnaval avec service d'ordre, jouant service d'ordre, efficace et pince sans rire. Pourquoi pas ? L'histoire ne se répète jamais, disent les répétiteurs d'histoire. C'est la lutte finale, entonne Olga, car elle connaît tous les couplets de ce chant depuis l'âge de 6 ans, quand les dominicaines françaises qui dirigeaient la maternelle furent expulsées et que des maîtresses nommées par le gouvernement remplacèrent « Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle » par « Debout les damnés de la terre, debout !»
Na 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 na
Vous avez tellement de talent et tellement de curiosité, Julia Kristeva, que vous allez aborder tous les genres possibles de l'intelligence, disons la psychanalyse, la philosophie, le roman, l'essai. Et vous allez, surtout vous, petite étrangère bulgare, expliquer aux Français qu'il ne faut pas méconnaître le génie féminin. Et vous avez donc produit une œuvre tout à fait remarquable autour de trois personnages, Hannah Arendt, Mélanie Klein, la psychanalyste, et Colette. Alors, le génie féminin, est-ce que vous pensez qu'il a quelque chose de particulier? Je vous dis ça parce que, par ailleurs, vous militez beaucoup en faveur des femmes et vous dites « je ne suis pas féministe ».
Oui, c'est une ambiguïté. En effet, merci de me donner l'occasion d'essayer de l'éclairer. Moi, j'avais beaucoup soutenu le mouvement féministe dans le sillage de mai 68. Et je me suis très vite rendu compte qu'il y avait un danger dans ces militantismes de se crisper dans une sorte de totalitarisme qui, comme vous pouvez l'imaginer à partir de ce que je vous ai raconté, je craignais beaucoup. Il fallait répéter ce que dit la chef. Il fallait se soumettre à un certain nombre de dogmes. Et moi, j'ai acquis la conviction dans ma petite histoire personnelle et surtout avec la psychanalyse que la liberté se conjugue au singulier. Et que si on ne favorise pas la créativité de la personne qui, en créant, partage son génie avec les autres, eh bien, sans cela, tous les dogmes libertaires dégénèrent en totalitarisme. Et donc, j'ai eu peur de cela dans les mouvements féministes. Et du coup, je n'ai pas adhéré, je me suis sortie des mouvements féministes. Et je n'ai même rien écrit de théorique sur la femme, les mouvements féminins, les droits des femmes. Ça me faisait un peu peur. Je pense que quelqu'un comme Hannah Arendt, je ne vais pas me comparer à elle, mais je trouvais en travaillant sur elle, elle avait la même réticence contre ce souci de mettre toutes les femmes ensemble, voire qu'une seule tête, etc. Et quand mes étudiants m'ont dit « Mais pourquoi vous n'écrivez pas sur les femmes? Faites un livre sur les femmes. » Je dis « Mais peut-être je pourrais faire quelque chose, mais sur des femmes, sur des singularités, sur des femmes qui se sont battues parfois même contre le mouvement féministe ou en l'ignorant, mais qui ont indirectement participé, participent encore à l'émancipation des femmes.
Mais reconnaissez, Julia Kristeva, qu'on reconnaît beaucoup plus facilement le génie d'un Sartre ou d'un Camus que d'une Colette.
Oui, mais ça, c'est en train de changer peut-être. C'est vrai que, en plus, la métaphore du génie a quelque chose de provocant parce qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est? C'est un peu soit religieux, soit romantique. Pour moi, c'est une invitation à se dépasser, à se dépasser pas forcément vers le haut, comme on le fait avec Pascal, l'homme passe l'homme vers Dieu, mais à se dépasser, si j'ose dire, à l'horizontale, vers autrui, dans la dimension des autres humains, et même en allant vers le bas, vers ses affects, vers ses faiblesses, etc. Et j'ai trouvé ça chez beaucoup de femmes sur le divan, chez des hommes aussi, mais puisque mon souci était de sortir du féminisme de masse, je me disais, je vais essayer de trouver quelques femmes dans des domaines que je connais plus ou moins au XXe siècle, pour montrer comment elles ont d'abord trouvé leur propre génie, parce que ce n'était pas joué à l'avance, et ensuite, en travaillant, en créant des choses intéressantes, elles sollicitent les autres femmes, non pas à faire pareil, mais à trouver leur propre génie. Et c'est là que, encore compte tenu de mes propres compétences, quelques modestes qu'elles soient, j'ai parlé de Hannah Arendt, parce qu'elle nous parle du XXe siècle en mettant un peu le décor, si vous permettez cette expression, parce qu'il s'agit vraiment de choses horribles avec la Shoah et l'antisémitisme, mais elle parle de l'origine de l'impérialisme et de l'antisémitisme, elle a parlé de la banalité du mal, mais aussi de penser, de juger toutes ces capacités qu'une femme peut acquérir et qu'elle a conquises de manière absolument remarquable. Ensuite, pour ce qui est de la psychanalyse, j'ai pris Melanie Klein, parce qu'elle est freudienne, mais elle s'est dissociée de Freud. Son génie, pour reprendre votre question, n'a pas été immédiatement reconnu, mais on sait aujourd'hui combien elle a apporté beaucoup à la connaissance de l'enfance. Et puis, je me disais aussi qu'il nous faut quelqu'un de gay un peu et pas tellement de dramatisme. Ça suffit, les femmes et le malheur. Et c'est Colette qui, tout en étant très triste à 16 heures, était absolument exubérante aussi.
Je n'ai guère gardé autour de moi qu'un très petit solde de jeune fille. J'en aurais davantage si je les laissais approcher, mais je les redoute. Il est tout naturel que les forces neuves effraient les forces déclinantes. La sévérité pour juger celle-là n'est pas le lot de celle-ci, quoi que nous en ayons. Je n'ai pas peur de mes amis, mais j'ai peur de la fille d'une amie, et même de la fille d'une amie. Mes jeunes filles, comme je dis, je ne les attire pas, je ne les chasse pas tout à fait. Elles doivent trouver que je manque de conversation, parce qu'avec elles, j'en manque en effet, et qu'il ne me reste du plus épuisant de tous les plaisirs qu'un prurit d'interrogation. Tête à tête avec celles qui sont déjà pourvues d'une profession, je finis toujours par tirer d'elles ce que j'aime le mieux, c'est-à-dire un peu du roman de leur métier, d'autant qu'elles passent aux aveux sans avoir l'air de se douter à quel point elles sont émouvantes, leur pathétique. Elle l'enferme dans ce que notre langage contient de plus banal, dans des explétifs, dans des chiffres affreusement précis et froidement énoncés. Cependant, qu'entre elle et moi s'étend et s'aggrave un espace que la familiarité s'aventurerait en vain à combler, ni d'ailleurs une bienveillance à laquelle elle ne croit guère, ma bienveillance. La curiosité qu'elle juge légitime, car l'infatuation ne leur fait pas défaut, me sert mieux, et aussi cette divination malicieuse à laquelle je recours par jeu seulement, et sans aucun esprit de conquête. J'ai besoin de me répéter qu'en dépit de l'âge, tous mes divertissements ne sont pas forcément criminels.
Je relève encore autre chose, Julia Kristeva, c'est que vos intérêts vont un peu partout et très souvent à l'encontre de vos convictions ou de vos croyances. Je relève ça parce que vous dites beaucoup « je suis athée ». Hein, bien que vous vous appeliez Kristeva, c'est un nom d'origine qui signifie quoi, le Christ.
Ça veut dire de la croix en fait.
De la croix. Oui. Et vous allez écrire le plus merveilleux chant d'amour à une grande mystique qui est Thérèse d'Avila. Alors comment est-ce que vous contorsionnez comme ça entre la foi de Thérèse d'Avila et votre propre athéisme ?
Mais écoutez, moi j'ai l'impression, contrairement à ce que vous dites, que je raconte toujours la même chose, mais avec des sujets différents ou des thèmes différents. Alors, pourquoi Thérèse d'Avila ? D'abord parce que dans mon expérience analytique, j'ai acquis la conviction, qui est chez Freud, mais il fallait le vivre personnellement pour s'en convaincre, que l'être parlant, ce qu'on appelle l'homo sapiens que nous sommes, est un être religieux. Qu'on professe ou non une religion, il y a un besoin de croire anthropologique que je considère, avec Freud, pré-religieux. Et ce n'est pas très connu du côté Freud, parce qu'on a repris de Freud l'idée que la religion est une névrose et il faut s'en guérir. Et il n'a pas tort, on connaît aussi bien les aspects névrotiques du refoulement religieux que le côté totalitaire, inquisitoire et qui restreint la capacité de penser. Mais en observant l'histoire de l'humanité, de manière plus précise, l'évolution de l'enfant, Freud constate, par exemple, avec Romain Rolland, mais il l'explique à sa façon, un sentiment océanique de l'enfant dans les bras de sa mère, où il est perdu, mais tout en se noyant, il nage dans le bonheur, et ça ressemble à l'extase des mystiques. Ou encore, de manière encore plus précise, relativement au monothéisme, ce qu'il appelle le père de la préhistoire. L'identification primaire avec, je suis très contente d'avoir trouvé ça parce que beaucoup de Freudiens ne le connaissent pas, on connaît le père Laïos, n'est-ce pas, que Œdipe va tuer pour devenir autonome. Mais avant celui-là, et tous les pères plus ou moins salopards qui existent dans l'histoire freudienne de l'humanité et que l'homme va tuer pour se libérer, eh bien, il y a ce père de la préhistoire qui sépare la mère de l'enfant.
Mais c'est un père qui, symbolique avec, ou ça
qui
réfère
est un père
à...
que j'appelle moi le père imaginaire parce que c'est celui qui reconnaît l'enfant, qui n'est pas un objet de désir, mais qui est un pôle d'identification.
Tu n'es pas le père de la préhistoire brute, c'est pas de l'homo qui à peine sapiens dont
non.
il faut.
Alors celui-là, il est le père de la horde primitive qui prend toutes les femmes et les frères vont se briguer, ils vont l'assassiner, ils vont remplacer la tyrannie par l'autorité symbolique du père et l'échange des femmes va s'en suivre, etc. Et donc ce père, il appelle le père de la préhistoire individuelle et est une version très archaïque de l'hominisation en quelque sorte, qui permet aux pulsions sexuelles dont est animé le petit enfant pervers polymorphe et qui conduisent à avoir des plaisirs dans nos sensations, dans le goût, à la peau, dans le sexe éventuellement. Eh bien, Freud dit qu'il y a une révolution de la matière qui fait qu'on prend plaisir dans la représentation. Je mémorise quelque chose. Je pense à cette mémoire et ça me fait plaisir presque autant, sinon plus, que l'essence. Et c'est l'espace psychique. Eh bien, cet espace psychique est optimalisé, soutenu par la reconnaissance que le père me donne. Parce que c'est le premier tiers, il y a papa et maman, et puis il y a voilà un tiers qui me reconnaît, qui me sépare de cette espèce de face-à-face avec maman qui est à la fois jubilatoire et coléreux et très compliqué. Les règlements de compte avec les mères, c'est connu. Et donc ce père, il appelle le père de la préhistoire individuelle, avec lequel l'identification, dit-il, est directe et unmittelbare, directe et immédiate. C'est comme coup de foudre. Les gens qui croient, ils pensent que ça leur tombe du ciel. Voilà, je ne peux pas ne pas croire, c'est l'évidence.
Celles qui ne se placent pas dans la vie monastique n'ont pas su comprendre la faveur immense que Dieu leur a faite en les délivrant du joug d'un homme, écrirez-vous bien plus tard, Thérèse, mon amour. Injuste, passionnée, trop amoureuse de maman. Avec Simone de Beauvoir, la révolte du deuxième sexe devait se reconnaître un précurseur dans votre plume rageuse. Un mari, poursuivez-vous, n'était-il pas cause trop souvent de la mort de sa femme ? Heureux encore s'il ne lui enlevait pas la vie de l'âme. Un ange passe, l'âme de Béatrice de Ahumada. Âgée de 13 ans et demi à la mort de votre mère, vous êtes la seule femme de la lignée auprès de votre père, mis à part Maria, l'aînée du premier lit. Entourée de domestiques, certes, mais responsable des tout-petits, c'est tentant de devenir le centre de cette domesticité quand, la maîtresse de maison n'étant plus là, le veuf n'apprécie que trop l'intelligente beauté de sa fille. Mais est-ce possible, si l'on a adoré lire avec la défunte Madre ses nobles romans courtois et ses histoires de saints martyrs ? Car la discrète Donna Béatrice avait su transmettre à sa fille aînée le goût d'un autre monde, sans lui dire, bien sûr, rien qu'en lisant des romans, comme s'il n'y avait aucune différence entre ses histoires d'amour et les vies de saints que préférait papa. Sans accouchement ni soucis domestiques, il existe un ailleurs, ma fille, et le salut est certainement là-bas, au-delà de ce corps-ci, au-delà de mon corps saignant de mère, au-delà des corps, au-delà de tout. Thérèse reçut le message maternel à sa façon, car non seulement ses aventures chevaleresques et saintes l'envoûtaient tout autant que les charmes féminins de son aristocratique génitrice, mais de surcroît, la petite avait pris goût à la liberté dans la compagnie des garçons, auxquels elle ne s'était jamais sentie inférieure. Est-ce que l'espace psychique d'une femme est le même que celui d'un homme ?
Moi, je ne pense pas. Là, je me distingue un peu des universalistes. Je pense qu'on a des espaces psychiques et de ce point de vue, on est dans quelque chose d'universel. Mais la place de la mère et du père ne sont pas les mêmes pour un garçon ou pour une fille. Et en plus, avec mon expérience analytique, je suis arrivée même à l'idée que, tout en différenciant les hommes et les femmes, c'est spécifique pour chaque personne. Par exemple, j'ai peut-être plus d'éléments masculins que Marie à côté de moi et Paul a peut-être plus d'éléments féminins que moi. La combinaison est différente selon les individus.
Qu'est-ce que tu as ?
Paul Ajac.
Qu'est-ce que tu dis ?
Portrait grandeur nature.
Thérèse a su retourner son fantasme incarné du père idéal qui l'a fait jouir ou souffrir en une connaissance de soi, en un parcours raisonné par l'écriture des demeures intérieures. Elle a su extraire ce qu'il y a de vrai dans le fantasme que l'idéal existe, c'est-à-dire sa part fondatrice, indispensable à la constitution du psychisme humain. Oui, tu as bien compris, je te parle de la vie intérieure de nos contemporains, de toi et moi, du genre humain issu de la dernière glaciation et qui a progressé dans la civilisation pour culminer dans le culte des morts, du père mort, de son autorité, de son amour, bref, dans le fantasme de l'au-delà. Or, ce psychisme et cette humanité-là, la nôtre, sont tous deux en crise. Ils s'étiolent, clonage ou pas, il suffit de regarder la Star Academy pour s'en convaincre, ou ils explosent en pleine nuit avec les incendiaires de nos banlieues et d'ailleurs. Quant aux soi-disant athées comme moi, on a tout fait d'être attrapé par une illusion plus ou moins meurtrière, si tu creuses bien nos prétentions, et les séries policières très tendances. Avant que d'autres vies psychiques, que d'autres humains viennent peupler la Terre globalisée, essayons au moins de comprendre les métamorphoses qu'on subit à travers le temps, l'humanité croyante et l'expérience de croire. Votre extase mystique, c'est l'écriture d'œuvres théoriques sur le savoir, l'érudition, la connaissance de l'homme humain, ou alors l'invention, l'imaginaire qu'on trouve dans vos romans.
Thérèse est en effet un être absolument extraordinaire. Elle écrit beaucoup. C'est une mystique. Alors, est-ce qu'elle est une carmélite? Est-ce qu'elle est une amoureuse? Est-ce que c'est une écrivaine? En tout cas, elle nous arrive aujourd'hui grâce à ses textes. Et il dit cette phrase qui répond peut-être à votre question. « Je fais cette fiction pour donner à comprendre. » Moi, j'ai l'impression que je fais ça.
Oui, mais il me semble, Julia Kristeva, que vos romans partent beaucoup plus de vous-même, du vécu, peut-être pas de l'autobiographie, mais des affects, des émotions profondes, alors qu'en fait, vous écrivez des essais à tête froide et peut-être posée, je ne sais pas.
D'une certaine manière, oui, parce que je dis « je » dans les romans, et il y a beaucoup plus d'événements dans lesquels je suis reconnue. Par exemple, Olga qui vient d'un pays de l'Est, ou dans le livre sur Thérèse, le personnage qui me représente, qui est une psychologue.
Et même, vous écrivez des romans, par exemple, vous retournez en Bulgarie à l'occasion de la mort de votre mère.
Voilà, et je
parle de ma mère. Ça va vous inspirer un roman.
Voilà.
Est-ce qu'il y a là quelque chose, un petit danger pour quelqu'un qui est comme vous et psychanalyste, qui est une grande intellectuelle, un petit danger d'abord de trahir quelque chose qu'on voudrait garder pour soi, d'une part, et d'autre part, de s'exposer.
Oui, c'est un danger, et en même temps, c'est un besoin. Je crois que si je commençais à écrire le roman, tout en sachant que je ne serais jamais ni Colette ni Proust, c'est pour répondre à ce désir de sortir un peu des grilles du concept et d'entrer en contact avec quelque chose, encore une fois, de plus affectif et peut-être plus infantile. Et c'est vrai que si on lit un jour attentivement ce que je dis à travers des personnages, ça me concerne aussi bien, par exemple, dans un livre qui s'appelle « Le vieil homme et les loups » qui parle de la mort de mon père qui a été assassiné dans un hôpital bulgare et d'une vie de couple qui est extrêmement dramatique. Il y a beaucoup de choses qui me représentent. Ou le roman « Meurtre à Byzance », qui est plus directement biographique, on parle de ma mère, etc.
Mais c'est un roman métaphysique en même temps.
Oui, parce
c'est
que...
C'est un polar métaphysique.
Mais oui, parce que là, je réponds aussi à une autre de vos questions, comment une vision, on va dire, psychanalytique de l'humanité rejoint des choses personnelles. La vision psychanalytique consiste à dire, contrairement à un humanisme béat, que l'être humain, habité par son désir, va à la mort. Désir à mort. Et donc, on est des criminels en puissance. Et dans ce livre, et dans d'autres livres, j'ai essayé de tenir compte de ce désir à mort et de prendre le genre policier, qui est plein de crimes, pour éclairer différentes situations, en disant en même temps que c'est un genre optimiste. Parce qu'il n'éradique pas le mal, comme Freud d'ailleurs ne l'éradique pas. Mais l'optimisme consiste à savoir d'où vient le mal. On fait l'enquête. Maintenant, il y a des gens qui disent « mais écrire, c'est parler de sa blessure ». Oui, mais c'est parce qu'on parle de la blessure, on est à travers, au-delà. Il y a une éclosion dans l'écriture. Je rejoins Colette là. Je ne me plains pas de ce qui m'est arrivé et de mes blessures. J'essaye de lui dire en essayant d'aller vers l'éclosion et de transmettre un peu de fleurs, un peu d'étincelles.
En tout cas, vous accordez une très très grande importance à la littérature. Ça, c'est vraiment, vous êtes une linguiste, donc le langage vous passionne, mais aussi la fabrication de fiction. Et vous avez suivi de près, Julia Kristeva, cette histoire, enfin cette polémique autour de Céline. D'ailleurs, vous lui consacrez dans ce dernier livre, « Leur regard perce nos ombres » chez Fayard, où c'est un échange de lettres avec Jean Vanier, qui a créé l'Arche, qui est un centre de soutien aux handicapés. Vous-même, vous militez maintenant pour les handicapés. Et dans ce livre, vous en arrivez à parler de la morale, du génie, et du génie conjugué parfois à la saloperie humaine. Et vous prenez pour exemple le cas de Céline. La correspondance de Céline, le grand écrivain et non moins célèbre auteur de pamphlets antisémites, vient de paraître en Pléiade. Tu n'as peut-être pas suivi la bourrasque qu'a suscité cet événement éditorial. Alchimie du verbe, laboratoire de l'écriture, coup de sonde historique et biographique dans les entrailles de la création ou simple complaisance pour cette abjection raciste qu'on n'en finira jamais de dénoncer, de combattre, voire d'essayer de comprendre et qui a conduit à la Shoah. À ma façon, j'ai essayé de l'aborder il y a plus de 20 ans déjà dans un livre dont le titre était justement « Pouvoir de l'horreur, essai sur l'abjection. Le débat autour de cette correspondance fait rage dans le Landerneau parisien et bien au-delà des cercles littéraires, tant il est impossible de cicatriser, encore moins d'oublier la plaie toujours ouverte des camps d'extermination. Je partage et comprends l'émotion et les arguments, mais au fond, je me désole des simplifications des uns et des autres. Je referme les journaux, revues, j'éteins radio, télévision et autres médias, et je replonge dans ces abîmes où la débâcle humaine cohabite avec l'aspiration au sublime. Alors la question se pose, est-ce qu'il est important de savoir qu'un immense écrivain a pu quelquefois avec ses mots aider au meurtre des gens, en l'occurrence les juifs sous l'occupation, au moment où il publie ses pamphlets? Est-ce qu'il est important de savoir quel homme il a été ou ce qui compte, c'est la littérature qu'il nous lègue?
Moi je pense que tout doit être mis en question. Et que la liberté, l'humanisme dont je me réclame et la littérature aussi, est une perpétuelle mise en question et rien ne doit rester dans l'ombre. Et nous sommes avec Céline devant un phénomène qui le concerne bien sûr, mais qui est plus largement la place de cette vérité sensorielle que transmet l'œuvre d'art. Une vérité qui est contagieuse. Et qui est contagieuse parce qu'elle touche des zones dont d'autres discours ne parlent pas. Par exemple, Céline, qui sort de la Première Guerre mondiale, absolument déçue de l'humanité, il voit une humanité carnassière, dégueulasse, c'est les mots abjects, fausses, etc., et qui jouit du carnage, il arrive à donner la peinture de cette humanité-là, et quand on le lit, on se dit « mais c'est vrai », et on adhère, et il touche. Et des touches, il touche. Voilà. Sauf que en allant jusqu'au fond de cette débâcle, de ce nihilisme où il ne reste rien de l'humain, ni Dieu ni homme, il cherche un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, dans l'histoire de la culture occidentale, se cristallise et pour lui dans les figures de juifs contre lesquelles il retourne toute sa colère. Et quand on lit les pamphlets, cette cristallisation autour du juif ne se fait pas dans les romans, mais elle se fait dans les pamphlets. Mais le lecteur non averti commence par lire les pamphlets avec la même adhésion quant à un certain nombre de vérités dont on ne traite pas ailleurs. Et quand il n'a pas les moyens de se défendre, il est contaminé aussi par la propagande concernant le bouc émissaire et les appels au meurtre, sans voir nécessairement que deux pages à côté, Céline va dire les mêmes méchancetés, les mêmes horreurs contre les francs-maçons, les chrétiens, l'école, l'église, le pape, etc. Mais ça, c'est son nihilisme total, ce qui fait que les Allemands l'ont rayé de la liste des collaborateurs. N'empêche pas que le texte des pamphlets garde cette charge mortifère et dire du mal des juifs en même temps qu'ils sont persécutés et de l'archevêque de Lyon qui n'est pas persécuté, c'est pas la même chose.
Et persévérer après la connaissance du génocide et les millions de morts.
Alors mais... après la guerre, il a été plus ambigu parce qu'il a dit qu'il a beaucoup déliré, mais il ne s'est jamais dédit. Donc ça reste, il est fixé là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on fait devant cela ? Moi, je suis de ceux qui ne pensent pas que le mal s'éradique par l'interdiction. Parce que de toute façon, l'interdiction peut être contournée. Mes étudiants ce matin me disent, mais on trouve Bagatelle pour un massacre, pas en librairie, chez les bouquinistes, c'est 300 euros, on ne l'achète pas, mais on le trouve sur Internet. Donc, est-ce qu'il faut l'éditer ? Évidemment pas en Pléiade. L'éditeur Gallimard et mon ami Henri Godard, qui est l'universitaire qui fait l'édition, proposent qu'il y ait une édition accompagnée d'explications, de prises de position, etc. Il semblerait que c'est impossible parce que ça tombera sous les coups de la juridiction. Il y a beaucoup de lois qui interdisent ce genre de publication. Je pense que c'est le rôle de la critique littéraire, de l'université, de laisser ouvert le débat et d'essayer de gratter ce symptôme qu'est un certain acte esthétique qui transmet des vérités nihilistes et qui est incapable de décomposer la transformation de ces vérités en arme de guerre contre des boucs émissaires qui relèvent de fantasmes et qui s'appuient sur une histoire dramatique.
Alors, on dit, voilà. Alors, je vous dis, donc, le roman de Céline, c'est agressant, c'est crispant, etc. Parce que ça n'est pas dans le style du Bachot, dans le style admis, le style du journal habituel, le style de la licence, et qui vraiment s'impose formellement et qui tiennent, n'est-ce pas ? Et qui tiendront, je vais vous dire pourquoi, un peu à peu. Mais alors, bon, alors je reviens à ce style. Eh bien, ce style, il est fait d'une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, et puis de les sortir des gonds, pour ainsi dire, les déplacer, et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens. Mais très légèrement, ou très légèrement, parce que tout ça, si vous faites lourd, alors c'est une gaffe, n'est-ce pas ? C'est une gaffe. Ça demande donc énormément de recul, de sensibilité, c'est très difficile à faire, parce qu'il faut aller, il faut tourner autour. Autour de quoi ? Autour de l'émotion. Bon. Alors là, justement, j'en reviens encore à ma grande attaque contre le verbe. Vous savez, dans les Écritures, il est écrit « au commencement était le verbe ». Non, au commencement était l'émotion. Alors, le verbe est venu ensuite pour remplacer l'émotion, comme le trot remplace le galop, n'est-ce pas ? Alors que l'animal naturel du cheval est le galop, et pas le trot. On lui fait avoir le trot. Ben, on a fait à l'homme, on l'a sorti de la poésie émotive pour entrer dans la dialectique, et c'est-à-dire le bafouillage, n'est-ce pas ? La dialectique.
Je me suis souvent demandé, Julia Kristeva, et vous aussi peut-être, pourquoi est-ce que Céline se retient, ne manifeste pas d'antisémitisme dans son œuvre romanesque ? Est-ce que c'est par précaution ou il y a là quelque chose dans la forme même de cette expression sublime, la littérature, qui le ramène à une espèce de raison, disons ? Je ne sais pas, je vous pose la question.
C'est très difficile. Je pense que dans le texte littéraire, dont il fait un roman, il est livré un être qu'il se réinvente. Il est avec ses blessures et avec son impossibilité à vivre dans le monde. Et il crée une néo-réalité qui est la fiction. Et dans cette néo-réalité, il va jusqu'au bout de l'abjection, de sa déchéance aussi, la déchéance de sa mère. Il explore le fou, il explore le vomissement, la défécation, enfin tout ce qu'on peut imaginer de nul dans l'être humain. Et il trouve les moyens de cette solitude extraordinaire, de sublimer cela. Mais quand il écrit ses pamphlets, qu'il signe d'ailleurs avec son, non pas Céline, mais Destouche, il est le citoyen. Il se confronte à la politique. Et là, c'est quelque chose qui échappe à la toute-puissance de la sublimation parce qu'il convoque des réactions sociales et politiques. Probablement des oui-dire de son milieu populaire et populiste où l'antisémitisme traîne depuis des siècles. Aussi toute la droite populiste et populaire autour de lui, un pacifisme mal compris, une sorte de rage contre les puissants, sa jalousie envers les juifs qui l'ont pris, la danseuse dont il était amoureux, etc. Tout ça a fini par le rendre complètement étranger à la sublimation magnifique qu'il fait dans ses romans.
Ce qui voudrait dire alors la création littéraire, le romanesque comme cure à la folie, comme dépassement des mauvais instincts qu'on a en soi.
Moi, je dirais la sublimation, dans notre langage psychanalytique, ça s'appelle une sublimation, mais qui est un garde-fou provisoire. Et que ça n'empêche et ça ne prémunit jamais de faux pas et de compromissions et d'abjections. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Une psychanalyse, ça ne suffit pas forcément, ça n'est pas donné à tout le monde. Peut-être quand même le travail de la pensée, du jugement, de la réflexion politique, le rapport à l'éthique. Vous parlez tout à l'heure de religion. Moi, je pense que c'est un domaine extrêmement important pour le monde moderne. Je me réclame en effet de l'humanisme et des Lumières et je trouve que nous avons, avec beaucoup de raisons et à juste titre, attaquer les abus des religions. Mais nous n'avons pas, nous humanistes, mis en évidence les bénéfices de l'expérience religieuse et ce que, par exemple, le monothéisme comporte comme force morale de dépassement de soi, peut-être parfois trop héroïsant et conduisant à un sadomasochisme chez la personne, mais qui donne des valeurs. Céline était très, dans son anarchisme et dans son nihilisme, en colère contre toutes sortes de monothéismes, juifs, chrétiens, francs-maçons, et ça va jusqu'à l'école, la morale, l'université, toute forme de pensée. Donc cette espèce de table rase de toutes les valeurs est quelque chose qui nous guette. Alors comment faire ? Ben, il faut reprendre cet héritage, ne pas y adhérer de manière naïve, ni le rejeter à la manière de Céline, mais faire tout un travail de compréhension, de transvaluation d'Nietzsche. Mais ça, ça suppose des écrivains qui ne se contentent pas d'une sublimation qui exulte dans le beau, mais qui arrive à penser. Proust le faisait, Joyce le fait. Bon, c'est plus difficile, mais c'est une autre forme d'art.
L'horloge tourne, les chiens dorment sur la paille. La lune siffle, elle murmure aux oreilles des enfants qui s'endorment, larmes à l'œil sous les draps.
Tout compte fait.
Qu'est-ce que tu dis?
Portrait grandeur nature.
Qu'est-ce que tu penses?
Paul Ajac sur France Inter.
Tout compte fait, Julia Kristeva, il semblerait que vous n'ayez rien à regretter de ce que vous avez fait.
J'ai parfois fait des choses qui m'ont été imposées et que j'ai embrassées. Je n'ai pas vraiment eu des obstacles insurmontables. Je n'ai pas eu de programme.
Vous avez
à
eu
suivre.
Des deuils, enfin des chagrins personnels comme tout le monde.
J'ai eu des chagrins personnels et j'ai appris à voir les bons côtés de chaque chose. Je suis assez colétienne. Peut-être que quelque chose de mes parents allait dans ce sens, qui ont vécu les deux totalitarismes dont on parle et qui m'ont transmis l'idée qu'on peut traverser tout cela.
Merci infiniment, Julia Kristeva, pour votre œuvre passionnante, diverse, amusante, intrigante. Et merci aussi pour ce bel entretien.
Merci à vous, Paula.
Les lectures sont extraites de quatre ouvrages de Julia Kristeva. Étrangers à nous-mêmes, un essai en collection Folio. Les Samouraïs, c'est le premier roman de Julia Kristeva, à valeur autobiographique, mais très romancé quand même. C'est chez Folio également. Un livre inclassable, récit, essai, déclaration d'amour. Thérèse, mon amour, Sainte-Thérèse d'Avila, c'est chez Fayard. Et enfin, un ouvrage écrit avec Jean Vanier. Jean Vanier, qui est le fondateur de l'Arche qui héberge des handicapés. Ça s'intitule « Leur regard perce nos ombres » et c'est paru chez Fayard. Merci à l'impeccable équipe de Tout compte fait, à la technique Dimitri Gronoff. Attaché de production, c'est Christian Alain. Le programmateur musical, c'est Djoubaka. La réalisation est signée par Anne Sécheret et Souad Boukorsa. Tout compte fait, vous le savez maintenant, c'est le samedi et le dimanche. Alors samedi prochain, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il écrit Umberto Eco, vous le saurez le samedi 20 août. Quant à Sylviane Agazinski, philosophe, eh bien nous l'écouterons le dimanche 21 août. Soyez fidèles au rendez-vous et merci.